nous surprend beaucoup, c'est que la préfète annonce la destruction de ce qui est finalement le cœur du bidonville, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de la population, et tous les services qui ont été créés, les lieux de culte aussi, les services qui ont été créés par les réfugiés avec les bénévoles. C'est difficile à accepter pour nous et on n'a pas vraiment d'alternative. On considère que le gouvernement ne propose pas en face de solutions pour les personnes qui habitent là.
À l'heure actuelle, à quoi ressemble la jungle de Calais? Est-ce qu'il y a des espaces de vie sociale qui sont présents?
Tout à fait. Donc ce camp existe depuis début avril 2015. Les réfugiés ont dû quitter les 9 lieux qu'ils occupaient, jungle, squat et autres, en ville de Calais et autour, pour arriver sur ce camp qui au départ était un camp de tentes. Toutes les tentes et couvertures et enfin tout le matériel a été fourni par les associations d'aide aux réfugiés. Petit à petit, par les réfugiés eux-mêmes et avec notre aide, des constructions en bois ont été entreprises, des cabanes, pour être un peu plus à l'abri que dans des tentes, et aussi ont été construits des petites épiceries, des restaurants, ça c'est par les réfugiés eux-mêmes, et également on a construit avec eux un certain nombre de lieux de service et de lieux de culte. Lieux de service comme par exemple les écoles, un point d'information, un autre endroit pour l'accueil de jeunes en difficulté, un point d'accueil des femmes, aussi des lieux de culte. Il y a une église orthodoxe qui accueille aussi le culte catholique et plusieurs mosquées. La vie sociale est intense, les gens vivent là. Évidemment le matin c'est très calme puisque beaucoup de gens tentent leur chance la nuit, circulent, etc. Et il y a aussi une vraie relation qui s'établit entre les dizaines et dizaines de bénévoles qui sont là et les réfugiés eux-mêmes.
L'auberge des migrants fait partie d'un groupe de signataires qui sonne l'alarme au sujet des mineurs isolés. De quoi s'agit-il?
Oui. Alors il y a donc sur la zone sud à peu près 300 mineurs, on va dire pas non accompagnés, parce qu'ils sont quelquefois avec un adulte, un oncle, un cousin, un autre adulte rencontré sur la route, mais disons sans tuteur légal. Il y en a aussi une centaine sur la zone nord. Ces jeunes-là sont particulièrement en danger, donc on a mis en place nous des initiatives de protection. Ces jeunes-là n'ont pas la capacité légale à accepter ou non d'aller en CAO, donc dans les centres d'accueil d'orientation, et ne peuvent pas non plus être accueillis dans les conteneurs, puisqu'il n'y a pas l'encadrement social et la structure capable, dans le respect des lois, de s'occuper d'eux. Voilà le problème, des jeunes en danger, et des jeunes qui le seront bien sûr particulièrement si le gouvernement effectivement procède à l'expulsion et à la destruction du bidonville.
Avez-vous des solutions justement pour remédier à ce problème?
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'expulsion soit suspendue ou annulée. Qu'on prenne le temps, tout le monde, c'est-à-dire les acteurs dont c'est la responsabilité légale, comme les acteurs de l'État, et en dialogue avec nous, on prenne le temps de se mettre autour d'une table et de réfléchir à des solutions valables, viables, pour les gens qui sont là. Va rester le problème des gens qui veulent aller en Angleterre. Aujourd'hui, la situation est bloquée du fait des accords du Touquet, du fait des contrôles ici et des défenses et barrières qui ont été placées en France. Donc ça dépendra des relations entre les Britanniques et les Français à l'avenir. Et très globalement, c'est entre les mains de l'Europe. C'est à l'Europe de trouver des solutions équilibrées, humaines, pour l'accueil des réfugiés, ceux qui sont déjà là et puis ceux qui, de toute façon, vont arriver. Nous, les associations, on a l'impression d'avoir été utilisées, souvent méprisées et pas reconnues dans le travail qu'on a fait tous ces derniers mois en particulier sur ce bidonville.